jeune homme. Ton ex.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 23 juin 2023, en direct de Washington, Idrissa Sédoulia. Pour commencer les titres, au Sénégal, un accord a été trouvé pour la révision du procès de l'opposant Karim Ouad, fils de l'ex-président Abdoulaye Ouad. Au Mali, l'entourage de l'imam Mahmoud Diko annonce le retrait du passeport diplomatique de cette éminente personnalité religieuse et politique et critique de la junte au pouvoir. Au Soudan, violent combat à Khartoum et au Darfour jeudi, plus de deux mois après le début de la guerre entre deux généraux rivaux. En RDC, plus de 2750 morts dans l'est du pays depuis le début de cette année, selon des ONG internationales. Ici à Washington, le président Joe Biden et le premier ministre indien Narendra Modi vantent la nouvelle énergie du partenariat États-Unis-Inde. Mort des cinq passagers partis explorer le Titanic après l'implosion catastrophique de leur submersible. Victor Wembanyama, sélectionné numéro 1 par les San Antonio Spurs de la NBA. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, des participants à une concertation nationale pour dissiper les tensions politiques à huit mois de l'élection présidentielle se sont entendus sur le principe de réviser le procès de Karim Ouad, écarté du scrutin de 2019 en raison de ses ennuis judiciaires, John Linden.
Karim Ouad, fils de l'ex-président Abdoulaye Ouad, a été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Ancien ministre d'État sous le régime de son père, Karim Ouad, 58 ans, a été gracié en 2016 par le président Macky Sall et s'est depuis exilé au Qatar. La société civile et l'ensemble des partis, majorité, non alignés et opposition, ont accepté de manière consensuelle la révision du procès de Karim Ouad, a affirmé Nafissatou Diallo, secrétaire national à la communication du PDS, ancien parti au pouvoir. Pour le moment, ces consultations n'ont pas permis de lever le flou sur la participation ou non de Karim Ouad à la présidentielle de février 2024 et celle de l'opposant Khalifa Sall. Une commission politique du dialogue national lancée par le président Macky Sall a par ailleurs proposé mercredi la modification de la loi électorale pour permettre à ceux qui ont été radiés de retrouver leur droit de vote et d'être éligibles. Cette modification permettrait alors à Karim Ouad et Khalifa Sall d'être candidats en 2024.
Au Mali, les autorités ont retiré son passeport diplomatique jeudi à l'imam Mahmoud Diko, éminente personnalité religieuse et politique, et critique de la junte au pouvoir, a-t-on appris auprès de son entourage. Les autorités n'ont fourni publiquement aucune explication à ce retrait qui a eu lieu à l'aéroport de Bamako, à son retour d'une conférence en Mauritanie voisine. Un membre des services de sécurité qui a requis l'anonymat a parlé d'erreurs techniques dans le passeport. L'imam, très écouté au Mali, a pu rentrer chez lui. Cet incident survient 4 jours après un référendum sur une nouvelle constitution auquel l'imam s'est opposé frontalement et 6 jours après une violente diatribe de sa part contre la junte. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté hier un nouvel hymne national pour remplacer la nigérienne, écrit au lendemain de l'indépendance du pays en 1961 par un Français, a appris l'AFP de sources parlementaires. De nombreux Nigériens critiquent surtout ces 3e et 4e vers. « Soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle », estimant que le mot « reconnaissant » marque une inféodation à la France. Le nouvel hymne intitulé « Pour l'honneur de la patrie » fait référence aux luttes anticoloniales et à la résistance contre les groupes djihadistes qui endeuillent le pays depuis 2015, a expliqué un député. Au Soudan, les habitants de Khartoum se sont à nouveau réveillés hier au sein des tirs et explosions, plus de 2 mois après le début de la guerre entre l'armée et les paramilitaires. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La violence des explosions fait trembler les murs des maisons, ont indiqué hier des habitants évoquant des tirs d'artillerie dans l'est de la capitale et d'autres à l'artillerie lourde depuis les casernes de l'armée dans la banlieue nord. Des combats ont lieu dans le centre de la capitale, survolés par des avions de combat et des frappes aériennes ont secoué plusieurs secteurs de la ville et ses banlieues. Au Darfour, les deux camps s'affrontent avec tous les types d'armes, ont raconté des habitants de Niala, capitale du Darfour Sud. À Al-Fasher, chef-lieu du Darfour Nord, des affrontements ont éclaté selon des témoins. À El Obeid, dans la région du Kordofan Nord, limitrophe du Darfour, des témoins ont aussi fait état de tirs d'artillerie. Avec la poursuite des hostilités, les 2/3 environ des établissements de santé dans les zones de combat sont hors service, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé, qui évoque 46 attaques contre des centres de santé depuis le début des combats.
En République démocratique du Congo, plus de 2750 civils ont été tués depuis le début de l'année dans l'est du pays. En proie aux violences, de nombreux groupes armés ont alerté jeudi des ONG internationales appelant à leur tour à une mobilisation humanitaire urgente. Ce bilan est mentionné dans un communiqué du Forum des ONG internationales en RDC, citant comme source l'une d'entre elles, l'International NGO Security Organization, une ONG dédiée à la sécurité humanitaire. Dans de nombreuses zones, la présence de groupes armés non étatiques actifs aggrave le cycle de la violence en cours, déclenchant des déplacements massifs de population et exacerbant une situation humanitaire déjà fragile, écrit le forum. Isabel dos Santos, la fille de l'ancien président angolais, a détourné 52 millions d'euros de la compagnie pétrolière nationale de l'Angola, selon un tribunal néerlandais, Michel Joseph.
Isabel dos Santos a détourné cet argent au profit d'une entreprise de droit néerlandais qu'elle détenait avec son mari, Exxem Energie BV, a conclu la Chambre des entreprises relevant de la Cour d'appel d'Amsterdam dans une décision rendue publique hier jeudi. Cette décision judiciaire est la dernière en date d'une série de jugements contre cette femme, autrefois qualifiée de femme la plus riche d'Afrique. Isabel dos Santos est accusée d'avoir détourné des milliards de dollars d'entreprises publiques pendant les 40 ans de règne de son père, José Eduardo dos Santos, décédé en juillet 2022. De nombreuses personnes ont coopéré à cet état de fait honteux qui a conduit Isabel dos Santos à obtenir frauduleusement 52,6 millions d'euros, a déclaré le tribunal dans son jugement. L'argent a été détourné par le biais de paiements de dividendes. L'accusé, 50 ans, a toujours nié tout acte répréhensible et dénoncé toutes les accusations comme une chasse aux sorcières à motivation politique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le premier ministre indien Narendra Modi a vanté hier la nouvelle énergie du partenariat avec les États-Unis tout en rejetant les critiques sur son bilan en matière des droits et libertés. De nouveau, Yacouba Ouédraogo.
Dans un long communiqué annonçant de gros contrats et promettant des partenariats plus poussés dans de multiples domaines, Joe Biden et son invité assurent avoir établi la vision la plus complète à ce jour pour le progrès de la relation bilatérale. Le président américain, soucieux de resserrer le lien avec l'Inde pour tenir tête à la Chine, a loué lors d'une conférence de presse commune une relation bilatérale plus forte, plus étroite et plus dynamique que jamais. Interrogé sur les accusations de répression des musulmans et de dérives autoritaires émises par de nombreuses associations ainsi que par l'ONU, le premier ministre Modi a répondu, je cite, « Dans les valeurs démocratiques de l'Inde, il n'y a absolument aucune discrimination. » Fin de citation. Le sujet a cependant suivi Narendra Modi lors de son allocution au Congrès américain où il a assuré « Nous accueillons toutes les religions du monde ». Des parlementaires démocrates, pourtant alliés au président Biden, ont boycotté la venue de M. Modi. L'Inde est engagée dans un conflit frontalier avec la Chine, tandis que Joe Biden cherche à renforcer sa position dans la rivalité tous azimuts entre Washington et Pékin. Reçu le matin avec les honneurs militaires pour son arrivée, Narendra Modi a eu droit le soir à un élégant dîner végétarien.
Les cinq personnes à bord du sous-marin d'exploration de l'épave du Titanic disparu depuis dimanche dans l'Atlantique sont mortes dans ce qui s'apparente à une implosion catastrophique, ont annoncé jeudi les gardes-côtes américains. La Minute Éco, John Linden.
Le Sénégal va recevoir 2,5 milliards d'euros de financement de partenaires internationaux afin de porter la part des énergies renouvelables en capacité installée à 40% de son mix électrique d'ici 2030. L'annonce a été faite jeudi par le président sénégalais Macky Sall. Ce partenariat pour une transition énergétique juste au Sénégal, soutenu par la France, l'Allemagne, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, a été annoncé à Paris dans le cadre du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. La Banque africaine d'import-export vient de lancer l'Africa Trade Gateway. Il s'agit d'une suite de 5 plateformes numériques conçues comme un guichet unique pour permettre à la banque de mieux remplir son mandat, promouvoir le commerce africain et mettre en œuvre l'accord de libre-échange africain. Parmi ces plateformes, il y a le système panafricain de paiement et de règlement qui devrait faciliter les transactions dans toute l'Afrique. Washington met la pression au sommet de Paris par la voix de Janet Yellen, patronne du Trésor américain, pour que les créanciers des pays pauvres et en développement participent aux négociations pour restructurer leurs dettes. Les États-Unis espèrent aussi voir des avancées sur la réforme des banques internationales de développement lancée à leur initiative en octobre.
Merci John. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Victor Wembanyama commence son aventure NBA.
Oui, comme prévu, le prodige français a été choisi en première position par les San Antonio Spurs lors de la draft NBA à New York, une première historique pour un joueur français. Victor Wembanyama est monté sur le podium pour serrer la main du commissionnaire de la NBA, Adam Silver. Après cette traditionnelle poignée de main, il a été coiffé d'une casquette à l'effigie de l'éperon argenté qui sert de logo à la franchise texane. Un geste qu'avait déjà effectué 22 ans plus tôt, un certain Tony Parker, un autre Français, qui a laissé une immense trace dans l'histoire des Spurs avec 4 titres de champion à la clé.
Les réactions à cette sélection de Victor Wembanyama se sont aussitôt enchaînés, à commencer par lui-même.
« C'est probablement la meilleure soirée de ma vie », a déclaré le phénomène de 2,24 m, capable de dribbler et de shooter de loin. « Tu nous fais rêver », a réagi le président Emmanuel Macron depuis son compte Twitter, ajoutant « Aucun doute, tu vas marquer l'histoire de ton sport ». Wemby, l'aventure commence maintenant, a réagi dans un tweet le footballeur français Kylian Mbappé. « Le potentiel est là pour une dynastie de dingue », s'est emballé Jérémy Sochan, joueur de San Antonio et futur coéquipier de Wembanyama. L'international de 19 ans est considéré comme le plus gros potentiel du basket mondial depuis LeBron James, drafté il y a 20 ans. San Antonio aura besoin de son nouveau numéro 1 pour redresser sa trajectoire sportive récente, marquée par 4 saisons sans play-off. Victor Wembanyama doit s'envoler pour San Antonio aujourd'hui avant une présentation officielle demain samedi. Bilal Koulibaly, l'autre Français d'origine ivoirienne, a été sélectionné en 7e position par les Indiana Pacers, qui l'ont confié aux Washington Wizards, pour qui il va jouer.
Football à présent, la fédération sénégalaise dément toute tentation de boycott au sein de la sélection.
L'instance nationale du foot sénégalais a démenti que les joueurs de l'équipe nationale aient songé à boycotter un match de qualification pour la CAN 2024 contre le Bénin, en raison des récents troubles au Sénégal. Avant le match samedi, achevé sur un résultat nul d'un but partout, la sélection a travaillé dans les conditions habituelles de préparation et de compétition et pas un seul instant, il n'a été question d'autre chose que de football, a écrit la fédération dans un communiqué. Le Sénégal a été le théâtre entre le 1er et le 3 juin de troubles suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024. Les violences ont fait au moins 16 morts selon les autorités, 30 selon le parti de M. Sonko.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, l'opposition et le pouvoir sont à couteau tiré sur la question du dialogue et chacun mène le sien. Le président Macky Sall a appelé en dialogue national et l'opposition radicale à un dialogue du peuple. Les deux camps sont divisés et cela se voit chez les citoyens. Un reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
Téléphone portable à la main, les yeux figés sur Facebook, Mohamedou Konaté, la soixantaine révolue, suit de très près l'actualité. Pour lui, le président est en train de conclure un deal politique alors que l'opposition mène le vrai dialogue.
C'est pas un dialogue, c'est un deal. C'est pour régler des problèmes. Je crois que tout ça a été acté depuis très longtemps. C'était pour régler le cas de Karim Wade, le cas de Khalifa Sall et permettre à Macky Sall de briguer un troisième mandat. Je crois que si on voit même le soir déjà en conclusion, mais tout est allé de ce côté. Ce dialogue du peuple a un sens parce que c'est le peuple qui a droit à la parole. C'est pas les individus, mais c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui est souverain.
Assis à ses côtés, Mamadou Salif Diallo n'a cessé de secouer la tête durant l'interview. Le professeur de français stoppe net la correction des copies de ses élèves pour prendre le contre-pied de son ami.
Non, absolument pas, je ne pense pas. La démocratie est là. Chacun a le droit d'organiser son dialogue. Parce que quand on parle de dialogue, il y a échange de propos, il y a discussion.
Le professeur de français, qui est aussi syndicaliste, estime que les discussions doivent permettre que les normes démocratiques soient respectées pour la présidentielle de 2024.
Qu'il y ait des élections libres et transparentes, que tout le monde participe selon la loi, que chacun puisse aller voter tranquillement et ils vont trouver un terrain d'entente, les deux parties. Attendons maintenant les conclusions des deux parties et voir.
Une présidentielle inclusive où tout le monde pourrait participer, même le président sortant, voilà le souhait de Daba Cissé. Pour cette mère de famille, si c'est cela qui doit garantir la paix au Sénégal, il faut le faire.
Laissons tout le monde participer. Sonko, Khalifa Sall, Karim Wade, laissons-les tous demander le suffrage des Sénégalais. C'est cela qui peut garantir la paix dans le pays. Laissons même le président Macky Sall se présenter s'il veut un troisième mandat. Le président Wade avait tenté le même coup, mais les Sénégalais l'avaient désavoué via les urnes. Donc, laissons chacun participer et le peuple choisira dans la paix.
Dialogue pour certains, deal pour d'autres. Les initiatives d'échange sont louées ou critiquées selon le camp pour lequel chacun penche. Mais pour beaucoup, les réflexions et réformes doivent avant tout garantir la paix et la stabilité sociale. Seydina Abagui pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Cameroun, avec la diminution constante des fonds alloués à la protection des réfugiés dans le pays, ces derniers sont encouragés par le HCR et ses partenaires à l'autonomisation. Et pour atteindre cet objectif, des ONG locales et le service jésuite des réfugiés sont mis à contribution, sans oublier les initiatives personnelles des réfugiés. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Belmont Willicon, jeune réfugié centrafricain, séjourne au Cameroun depuis 8 ans. Étudiant en communication d'entreprise, il est aussi passionné des soins esthétiques. Depuis 5 mois, il est installé à son propre compte grâce à un financement du service jésuite des réfugiés, le partenaire à la formation du HCR.
J'ai eu à passer un concours du côté de JRS qui finançait les meilleurs startups. Et on m'a retenu le dossier, mon projet, et ils m'ont financé dans le domaine de l'esthétique.
Depuis l'an dernier, plus d'un millier de réfugiés ont bénéficié des appuis du JRS qui œuvre ainsi en faveur de l'autonomisation et l'entrepreneuriat des réfugiés.
JRS financement du HCF particulièrement, sélectionne des personnes qui veulent être formées à des métiers porteurs. À Yaoundé comme à Douala et même à l'extrême nord, des jeunes qui sont formés à des métiers tels que la relou froid et climatisation, mécanisation, couture, esthétique, infographie.
Mais certains réfugiés comme Verlin Poco ont dû réunir leurs propres fonds pour créer une activité génératrice de revenus. Arrivé au Cameroun en 2014, à la suite de la crise en Centrafrique, Verlin a eu droit à l'assistance financière du HCR qu'entre 2017 et 2020.
Ça, là, c'est les réchauds à charbon. Je fabrique les fours en bois, les fours en copeaux. J'ai fait les sauts, j'ai fait les barbecues. Le moment où il y a seulement les problèmes de moyens, c'est ça que je débute seulement avec les fours à charbon. Là.
Ce matin, Paul Dingonaimu, un réfugié centrafricain, s'avance suivre une formation sur les emplois verts à l'initiative d'une ONG locale, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Quatre autres réfugiés prennent part à la même formation.
Beaucoup même qui m'a intéressé dedans, c'est-à-dire l'agriculture urbaine même. Je n'ai pas de champ ici, mais je pouvais déjà mettre peut-être 3 ou 4 pieds de liam et même de piments sur ma devanture, et ça pourra nous aider.
Près de 500 000 réfugiés et demandeurs d'asile vivent au Cameroun, mais les activités du HCR sont sous-financées.
Notre organisation a décidé de s'attaquer à une frange qui, elle aussi, est en croissance, à savoir les jeunes réfugiés, leur apporter une expertise qui peut leur être utile dans leur installation dans leur pays d'accueil qu'est le Cameroun.
Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, le HCR au Cameroun n'a reçu, en 2022, que 31% des fonds nécessaires au soutien des personnes déplacées de force. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Mali, les autorités de la transition ont demandé, on le sait, le retrait de la MINUSMA, la mission de l'ONU. Les avis sont fortement partagés sur la question à Gao, dans le nord du pays. Notre correspondant sur place, Boubacar Touré, a interrogé certaines personnes dans la ville. Son reportage.
Depuis l'intervention de Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali aux Nations Unies, où il a clairement demandé le retrait de la MINUSMA du Mali, les commentaires vont bon train dans les rues de Gao et les avis restent très partagés. Parmi les gens interrogés, certains pensent que la MINUSMA doit simplement partir car elle n'aide pas les soldats maliens à instaurer la paix dans le pays.
Bon, nous avons pris connaissance de la décision des autorités maliennes de demander le retrait de la force de la MINUSMA. C'est une décision vraiment que nous saluons et nous respectons la décision de nos autorités.
Nous, on est optimistes. Le MINUSMA, pas MINUSMA, nous, on est au Mali. Nous, c'est le Mali, on la MINUSMA, tôt ou tard, il va partir. Donc, si les autorités décident à ce qu'ils partent, s'ils voient c'est dans ça l'intérêt du Mali, donc ils n'ont qu'à partir.
Moi, je vois qu'ils devraient embarquer parce que ce n'est pas de faire travailler les gens qui est notre souci. Parce qu'au minimum, ils devront aider l'armée malienne à sécuriser le territoire malien. Vraiment, qu'ils plient bagages sans problème, sans dégâts, on s'excuse et puis la vie continue.
D'autres affirment clairement que la mission des Nations Unies au Mali est d'un apport inestimable pour les populations locales.
Le départ de la MINUSMA tout de suite à la hâte, ce n'est pas une bonne chose pour la population pauvre de Gao. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la MINUSMA, on a au moins plus de 2000 jeunes de Gao qui arrivent à subvenir à leurs besoins grâce à la présence de la MINUSMA. Moi, présentement, on m'a donné de l'eau, des forages dans 3 de mes villages.
Moi, quand même, personnellement, je ne veux pas que la MINUSMA n'a qu'à partir. Je ne suis pas là-bas, hein? Mais très sincèrement, je ne veux pas qu'elle va partir. La MINUSMA, c'est vrai que ce n'est pas gay. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est centrée au centre même de notre économie dans nos régions du nord au Mali.
Aujourd'hui, pour les régions du nord, sinon pour le Mali en général, la MINUSMA fait beaucoup de choses. Et une raison qui fait que beaucoup de gens de la région, des régions du Nord sont sur place. En toute sincérité, le MINUSMA apporte beaucoup. Sur le plan quand même développement, ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour les nordistes.
Pour le troisième groupe de personnes interrogées, après le retrait de la MINUSMA du Mali, les autorités du pays doivent s'assumer.
Bon, nous, on pense que si les autorités ont demandé leur départ, on est derrière eux. Mais seulement, il faut comprendre qu'il y aura beaucoup d'impact à Gao en termes de travail, en termes de beaucoup de choses. Donc, on sait que ça va jouer quand même sur Gao. Donc, il faudrait déjà préparer quelque chose qui va au moins atteindre les jeunes de Gao en attendant.
Et si aujourd'hui l'aménagement quitte, qu'est-ce que l'État a fait pour après l'aménagement? Et c'est l'autorité qui décide du départ de l'aménagement. On est qui pour dire le contraire? Mais que l'autorité s'assume.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En Sierra Leone, élection présidentielle ce samedi, parmi les électeurs plus âgés, ceux qui ont vécu la guerre civile se disent préoccupés par le fait que les jeunes pourraient recourir à la violence pour s'être déjà révoltés en août dernier contre les difficultés économiques. Senanou Todd à Freetown a suivi une campagne de porte-à-porte menée par des électeurs plus âgés visant à maintenir la paix le jour du scrutin. Le récit est de Blanche Sanou.
Kalimara est un survivant. Il n'avait que 8 ans lorsque les rebelles ont envahi sa maison familiale en 1991 pendant la guerre civile. Il raconte comment sa tante a été tuée en sa présence et son village incendié. Kalimara, survivant de la guerre.
Ils ont coupé les deux seins de ma tante et elle a saigné à mort. Ils nous ont battus avec des cordes et des cannes et ont incendié nos maisons. Mon oncle a proposé de leur donner de l'argent et du bétail, mais ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils voulaient sa vie. Alors, ils l'ont abattu aussi.
De nombreux autres survivants ne veulent pas que la même violence se reproduise. Certains citoyens disent que les jeunes sont agités. Pendant une manifestation en août dernier, plus de 25 personnes ont été tuées. Fatou Guewa est enseignante à Freetown. Elle affirme que beaucoup de ses voisins fuient vers la campagne pour éviter d'être pris dans des troubles violents.
Certains jeunes disent qu'ils sont prêts à se battre s'ils ne gagnent pas les élections. Certains disent que les dernières élections n'étaient pas crédibles. Alors ils sont prêts à défendre ces élections à tout prix.
Le Forum interactif du tribunal spécial est un consortium de plus de 100 organisations de la société civile. Ce forum craint que certains politiciens vont chercher à semer le trouble. Ses membres ont ciblé des quartiers à risque pour faire campagne pour la paix et contrer ce qu'ils qualifient de désinformation et de campagne contraire à l'éthique de la part de certains candidats à la présidence. Patrick James Trunker est le représentant du Forum interactif du tribunal spécial.
Parce que nous voulons nous assurer que nos élections seront pacifiques, nous allons raconter l'histoire de la guerre, décrire la violence et ses conséquences pour le pays. En réalité, ces jeunes qui ont participé à l'insurrection l'année dernière ne connaissent pas notre histoire.
Les responsables de la sécurité nationale affirment que les données dont ils disposent montrent une réduction de la violence électorale cette année comparée à 2018. Selon eux, seuls 14 cas de troubles mineurs, comme la destruction de matériel de campagne de l'opposition, ont été enregistrés entre avril et fin mai. Selon eux, il y a quelques cas d'incendies criminels ces dernières semaines, mais tout est sous contrôle. Abdul Karim Will est le porte-parole du Bureau de la Sécurité nationale de la Sierra Leone.
The military will be coming to support the police, but their intervention will be exclusive.
Les militaires viendront en appui aux forces de l'ordre, mais leur intervention se limitera exclusivement à des déploiements statiques et des patrouilles mobiles. Juste pour que nous soyons sûrs qu'au cas où la situation sécuritaire devrait dégénérer, l'armée va intervenir pour soutenir la police.
Les Sierra Leonais se rendent aux urnes samedi et espèrent des élections paisibles.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.